La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Mais que s'est-il donc passé avant le Big Bang? La science est-elle capable de se prononcer sur cette question qui semble totalement surréaliste? Mais pourtant, rien n'empêche les scientifiques d'imaginer de nouvelles théories pour tenter d'établir un scénario avant les premiers instants de l'univers, ce moment où les lois de la physique ne sont plus applicables. Avec mon invité Jean-Philippe Puzan, nous allons nous pencher sur cette préhistoire du Big Bang pour réfléchir au phénomène qui aurait pu avoir lieu avant que l'univers n'existe. Une discussion ambitieuse au regard des limites qui sont celles de la physique dans ce domaine. C'est donc le sujet de l'émission avec vos questions, vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour.
On sera également dans l'espace à la une de la science avec vous et avec le télescope Gaïa et son incroyable moisson de données collectées sur notre galaxie.
Oui, son nom est moins fameux que celui de Hubble. Pourtant, c'est la nouvelle coqueluche des astrophysiciens. Le télescope Gaïa, lancé en 2013 par l'Agence spatiale européenne, est tout bonnement en train de révolutionner la compréhension de notre Voie lactée. Et l'annonce de la publication de ses toutes dernières observations, c'est simple, ça a mis la science en ébullition.
Allons bon.
Oui, nous allons nous plonger dans la Voie lactée avec Alexandra Reco Blanco de l'Observatoire de la Côte d'Azur.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons comme tous les mardis le rendez-vous Science Grand Format de France 5 avec ce soir un documentaire consacré au site de Petra en Jordanie. C'est Étienne Bertin qui réalise l'émission, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Jean-Philippe Puzan.
Bonjour Mathieu Vidard, bonjour à tous.
Est-il bien raisonnable de discuter sur l'avant Big Bang au micro de la tête au carré cet après-midi?
Non, il n'est pas raisonnable, c'est pour ça que je suis venu le 1er mai, parce que comme le président, j'ai décidé aussi de travailler.
Les astrophysiciens travaillent toujours de l'année.
On travaille, comme tout le monde, on prend des vacances, mais je pense que réfléchir aussi n'a pas de limite temporelle, c'est aussi l'acte de recherche, c'est quelque chose qui est beaucoup moins structuré, en fait, qui parfois vous laisse debout la nuit ou vous fait travailler les week-ends, et puis parfois vous laisse rêver pendant des journées qui devraient être travaillées. Voilà, c'est un petit peu, on est au rythme de notre créativité aussi.
Il faudrait quasiment une vie pour réfléchir à cette question de l'avant Big Bang, non?
Non, il en faut plus qu'une.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème. Non, il faut... Cette question, elle est intéressante et je pense qu'elle dit beaucoup de choses sur nos attentes par rapport à la science. C'est intéressant parce que il y a le travail que font les chercheurs dans leur laboratoire en résolvant des équations, en faisant des expériences, des observations. On vient de parler de Gaïa et ça, c'est important.
Ouais.
Et souvent, je le rappelle, la cosmologie, ça commence ici, aujourd'hui. Nous sommes ici, aujourd'hui. Nous observons l'univers depuis ici et aujourd'hui. Et notre ambition, c'est d'essayer de comprendre l'histoire, la géographie de cet univers, de remonter dans sa plus tendre enfance et peut-être de se poser la question de savoir est-ce qu'il y avait un avant. Alors cette question, elle peut paraître absurde.
Ouais.
Et c'est vrai que souvent, quand on parle de cette cosmologie, ça peut exciter la fascination, le dégoût, voire le ridicule. On va essayer de pas tomber dans cette troisième catégorie aujourd'hui.
Bon. Ben, ce sera notre point zéro de la discussion dans quelques minutes et avec les auditeurs qui auront certainement aussi des questions à vous poser, à la fois sur le Big Bang, parce qu'on va revenir aussi un petit peu sur les fondamentaux, et puis ce qui a pu se passer avant. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour nous retrouver. Et à la une de la science, le télescope Gaïa et ses incroyables observations sur notre galaxie aujourd'hui donc.
2, 1, top, décollage.
Dans la nuit guyanaise, 10h12 heure de Paris, Soyouz, la fusée russe emporte le satellite le plus sophistiqué construit pour l'exploration de l'univers. 336 tonnes de fusée pour mettre les 2 tonnes du satellite en orbite, après 42 minutes de vol. Ce matin, le voyage de Gaïa ne fait que commencer. Durant un mois, l'engin va s'éloigner en spirale de la Terre. Le 19 janvier, il sera en poste fixe à 1,5 million de kilomètres, loin de toute influence terrestre, et commencera à scanner l'univers.
Et c'était donc le 19 décembre 2013. Et si on changeait de point de vue sur la Voie lactée, eh bien c'est exactement ce que permet aujourd'hui le télescope Gaïa, en fournissant une avalanche de données d'une précision inégalée sur les étoiles et sur la galaxie. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invité.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes au téléphone avec Alexandra Recio Blanco. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'équipe Galaxie et Cosmologie à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et vous participez à l'analyse des mesures envoyées par le télescope télescope Gaïa. Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, on peut dire que ce télescope est en train de révolutionner nos connaissances sur la Voie lactée ?
Alors, parce que Gaïa va réaliser, est déjà en train de réaliser une carte en 3D, une carte 3D mais en mouvement, d'une portion très importante de notre galaxie, la Voie lactée. En fait, cette carte contient quasiment tous les astres qui seraient jusqu'à 1 million de fois moins brillants que ce que nos yeux peuvent voir, peuvent détecter. Et il faut penser que jusqu'à maintenant, notre connaissance de la structure de la galaxie pouvait être comparée à celle des cartes du monde d'il y a quelques siècles, quand le profil des côtes était mal dessiné, qu'il y avait des continents entiers qui restaient inconnus. Donc grâce à Gaïa, nous allons passer dans une nouvelle ère dans laquelle, pour reprendre ce parallèle avec les cartes du monde, on va avoir des cartes modernes en 3D qui peuvent même inclure une mesure de la dérive des continents. Donc ça va être un bond en avant de nos connaissances sur la galaxie.
Donc on passe des cartes du Moyen-Âge, des navigateurs du Moyen-Âge, à une carte 3D de la galaxie. Il faut dire qu'actuellement, Gaïa, dans la dernière moisson, elle a permis d'avoir 1,7 milliard d'étoiles passées au crible par Gaïa, c'est ça ?
Exactement. C'est environ 1% des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Donc Gaïa, le satellite, balaye toute la sphère céleste et enregistre très précisément pour toutes les sources lumineuses détectées la position, la distance aux étoiles, mais aussi les mouvements, la brillance et les couleurs de ces étoiles. Toutes les étoiles n'ont pas la même couleur. Et pour les plus brillantes d'entre elles, on aura également, on est en train de collecter les spectres et donc les mouvements en 3D. Les positions des étoiles, il faut penser spécialement les plus brillantes, sont mesurées avec une précision qui est semblable à celle d'être capable de détecter la taille d'une pièce de 1 euro qui serait posée sur la Lune.
Alexandra Recio-Blanco, oui. Justement, vous dites 1,7 milliard d'étoiles passées au crible par Gaïa. Il y a quelques années à peine, on était capable d'en compter combien au fond dans notre Voie lactée ?
Donc, il faut, pour donner une idée, il y a eu une mission similaire à celle de Gaïa, il y a environ 20 ans maintenant, qui s'appelait Hipparcos, aussi une mission européenne, qui a eu un impact important sur notre connaissance de la Voie lactée à ce moment-là, et elle avait mesuré les positions de 120 000 étoiles. Donc ici, on est à des ordres de grandeur au-dessus de ça. Oui. En plus, Hipparcos mesurait seulement l'environnement du Soleil, c'est-à-dire vraiment notre la cour, le petit jardin autour de notre
autour
maison.
De la maison.
Maintenant, on va au-delà, dans des régions inexplorées jusqu'à présent.
Et comment est-ce qu'on fait quand on a autant de données, 1,7 milliard d'étoiles passées au crible, comment on fait quand on reçoit toutes ces données ? Est-ce que Gaïa, tous les jours, envoie de ses nouvelles et puis au fur et à mesure, on arrive à les trier ? Comment on s'organise ?
Tout à fait. Donc, en effet, c'est un enjeu majeur de la mission qui nous a fait même changer notre façon de travailler. Depuis quelques années, pour préparer la mission, enfin, depuis maintenant plus d'une décennie, un consortium d'environ 450 chercheurs et ingénieurs européens, c'est un consortium international, prépare les algorithmes pour traiter tous les jours les données que le satellite Gaïa nous envoie de façon automatique, évidemment, parce que si on doit regarder toutes ces données, on finira jamais. Et donc, ces algorithmes fonctionnent tous les jours pour nous extraire les informations physiques sur les étoiles, par exemple la température, les positions, etc. Et après, nous faisons des vérifications du résultat de ces analyses avec des équipes internationales. Et au bout de ces vérifications, on arrive à des publications comme celle du 25 avril dernier.
Jean-Philippe Puzan, c'est du jamais vu, hein, ce qui se passe avec ce télescope Gaïa sur finalement l'inventaire qu'on peut faire de notre Voie lactée.
Non, c'est fabuleux. Ouais. C'est fabuleux et je crois que c'est aussi c'est un exemple de ce que l'astrophysique est en train de devenir. C'est un exemple. On a d'autres satellites. On a parlé à l'envi des ondes gravitationnelles et aussi de toute la technologie qu'il a fallu mettre en place pour avoir ces détecteurs-là. Et je crois qu'on a la chance en ce début de 21e siècle, de vivre une époque où on découvre énormément sur l'univers. Et je crois que c'est ça, peut-être le premier apport de la science, c'est de nous donner des nouvelles façons de regarder l'univers, de voir des couleurs qu'on n'est pas capable de voir, des signaux que pour lesquels nous n'avons pas de sens, et qu'à chaque fois qu'on regarde, on est un petit peu moins aveugle face à cet univers et on découvre un peu plus sa structure. Et là, c'est fabuleux. Alors, la Voie lactée, c'est vraiment notre environnement
le plus
proche.
C'est la banlieue proche, là. Hein.
Voilà. Ouais. Mais comme il a été dit, on fait une carte en 3D et on mesure le mouvement. Or, la position des étoiles et leur mouvement sont reliés ensemble par des équations du mouvement qui sont dérivées de la théorie de la relativité générale. Et donc, ça va permettre de peut-être faire une carte de la matière noire, de tester notre théorie de la gravitation. Donc, on voit qu'avec un objet très proche, on peut faire des tests de physique fondamentale. Et ça, c'est aussi très, très important.
Alors oui, Alexandra, ce qui s'est passé, c'est que quand on a révélé donc ce deuxième catalogue de données de Gaïa, il y a eu vraiment une ébullition. Tout de suite, les chercheurs se sont mis à publier. Il y a déjà eu quelques données?
Oui, tout à fait. Les chercheurs, il y avait un engouement, une attente énorme de l'ouverture de l'archive le 25 avril. Et donc, tout de suite, après l'ouverture de l'archive, il y a eu déjà des publications, des nouvelles publications arrivent tous les jours. Et donc, parmi celles-là, on peut mentionner les premiers résultats sur, par exemple, les mouvements des étoiles dans le disque de la Voie lactée. Donc, les étoiles, notre Soleil lui-même se trouve dans le disque galactique. Notre galaxie a une forme spirale, on va dire en forme de frisbee, et le Soleil se trouve plus ou moins à mi-chemin entre le centre de la galaxie et l'extérieur. Voilà. Et donc, on a mesuré avec précision les mouvements en 3D des étoiles dans le disque, et ces mouvements nous montrent d'une façon détaillée comment les étoiles du disque non seulement tournent autour du centre galactique, mais elles semblent perturbées dans leur mouvement, comme quand on jette une pierre dans une mare et du coup on observe des courants d'étoiles avec des structures en forme, par exemple en forme d'arche. On les a vues grâce à ces données pour la première fois.
Et ce n'est qu'un début
Ce n'est qu'un début. En fait, grâce à ce genre de données, on arrive à mieux comprendre quels sont les processus physiques qui ont formé la galaxie telle qu'elle nous la voyons aujourd'hui, comme par exemple la migration des étoiles dans le disque ou bien l'accrétion de galaxies satellites plus petites. On est capable de voir par exemple comment la galaxie satellite, le grand nuage de Magellan, tourne sur lui-même. C'est un ensemble de données très riche et vraiment passionnant.
Et vous n'avez pas fini, hein, les astronomes, les astrophysiciens, de décortiquer évidemment ces données extraordinaires grâce donc à ce télescope Gaïa. Merci Alexandra Recio-Blanco, vous étiez en duplex depuis l'Espagne. Merci pour toutes ces précisions. Et puis Caroline, on se retrouve demain pour une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, toujours dans l'espace, la NASA qui stoppe un projet de rover lunaire. Et c'est une surprise. En effet, il y a quelques mois, Donald Trump avait affiché sa volonté de renvoyer des astronautes américains sur la Lune. Or, ce programme, baptisé Ressources Prospector, était l'unique véhicule lunaire autonome en cours de développement à la NASA. Le groupe de scientifiques qui travaille sur l'engin a exprimé son incrédulité et sa consternation dans un courrier à l'agence spatiale. Le robot lunaire, dont la construction a débuté voilà 10 ans, était le seul au monde donc potentiellement capable d'explorer les régions polaires de la Lune. Son lancement était prévu en 2022, l'agence indique simplement qu'elle cherche à évoluer vers des atterrisseurs plus grands et plus capables d'être habités. La marijuana pourrait réduire l'utilisation d'antidouleurs chez les personnes de plus de 60 ans. Une étude menée sur plus de 130 utilisateurs par des chercheurs américains montre que jusqu'à 65% d'entre eux ont significativement diminué leur douleur chronique et leur consommation d'opioïdes. 27% de ces patients ont même arrêté totalement l'utilisation des antidouleurs. Mais attention, pour profiter des bienfaits du cannabis, il semble qu'il faille mieux le consommer sous forme de tisane, de spray buccal ou de médicaments, et donc pas sous forme de pétard. À noter que les auteurs de l'étude regrettent que la prescription de marijuana reste à un coût prohibitif pour de nombreuses personnes et ne soit pas encore couverte par les assurances américaines. Et puis un rat kangourou réapparaît alors qu'on le pensait totalement disparu. La dernière fois qu'il avait donné de ses nouvelles, c'était il y a près de 30 ans. Le rat kangourou de San Quintín est originaire des maquis arides de la Basse-Californie, au Mexique. Il tire son nom de sa capacité à sauter, mais il n'a rien de commun avec les marsupiaux. Long d'une dizaine de centimètres, ce rat kangourou a été victime du développement de l'agriculture intensive dans la région, au point qu'on le croyait donc disparu. Sauf qu'il y a quelques mois, lors d'une mission de routine d'observation de la faune, des chercheurs sont tombés nez à nez avec un spécimen bien bien vivant. Après recherche, il semble même que l'espèce soit en train de reprendre du poil de la bête grâce à la diminution de la culture dans la région à cause de la sécheresse. Avant le Big Bang, on se pose la question dans la tête au carré dans un instant. Today hit the day, c'était Hills à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Que s'est-il passé avant le Big Bang? Ben oui, on s'autorise cette question cet après-midi. Les musiciens, les physiciens, non pas, ben pourquoi pas les musiciens d'ailleurs?
Qu'y avait-il avant le Big Bang?
C'est ça. C'est une question de créativité au fond, cette question. On peut tout imaginer. Est-ce seulement possible d'ailleurs d'imaginer cette question? Sujet de la tête au carré avec vous, Jean-Philippe Usan. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cosmologie, d'astrophysique à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous aviez publié à la rentrée L'harmonie secrète de l'univers aux éditions La Ville Brûle. On en avait parlé dans l'émission. Et alors, les auditeurs nous rejoignent déjà avec les messages et les questions sur cette affaire de l'avant Big Bang. Je vous donne celle d'Annie. Tiens, déjà premier témoignage. C'est une question, dit-elle, qui me titille depuis toujours. Dans ma petite tête de Candide, je me suis créé un film dans lequel, avant le Big Bang, il existait un univers du type de celui que nous connaissons aujourd'hui, comportant des trous noirs qui, au fil du temps, ont absorbé la totalité de la matière, se sont attirés, ont fini par fusionner en un seul. Cet ultime trou noir, atteignant une masse énergie critique, a Big Bangé. Pour moi, il s'agirait donc de cycles. Et on a plein de messages comme ça, c'est-à-dire que tout le monde y va de sa proposition.
Mais c'est merveilleux.
Ouais.
Je pense que déjà, ça dit quelque chose sur nous en tant qu'êtres humains. Donc ça la titille, et je pense que ça a titillé l'humanité depuis toujours. Dans quel univers vivons-nous? Je veux dire, on a observé le ciel depuis que, voilà, dès qu'on a eu des yeux, les gens ont regardé le ciel. Il a fallu expliquer l'environnement dans lequel nous vivions. Et ouais, ça a commencé par faire des mythologies, par faire des religions. Et puis ensuite, on a eu un nouveau mode de questionnement sur l'univers, sur la matière, qui s'est appelé la science, avec qui est une démarche. Et la science va dire des choses. Et souvent, on a envie que cette science nous donne des réponses à ces questions qui sont plutôt des questions d'ordre existentiel et métaphysique. Et donc, c'est là la difficulté de cette question. C'est-à-dire que, en science, on fait des représentations d'un certain nombre de phénomènes, et en particulier l'univers. La cosmologie, c'est vraiment la science qui s'intéresse à notre univers. Elle va amener des affirmations qui vont être basées sur des théories, qui vont être vérifiées par des observations. Et après, on peut continuer à partir de ça à extrapoler à rêver. Et donc, bien sûr, on a toujours envie de savoir plus. Ouais. Et ces questions sont naturelles. Et je crois que c'est ce qui a vraiment... titillé, comme le disait Annie, les gens depuis des siècles, qui les titille encore aujourd'hui et qui les amène à se poser et à essayer de faire rentrer ces questions comme des questions scientifiques. Mais peut-être qu'on va en discuter, il y a des grandes difficultés pour cela.
Alors justement, est-ce qu'on est dans une question scientifique, là, Jean-Philippe Usan, ou est-ce qu'on est en marge, dans complètement autre chose, et que pour l'instant, la science n'a absolument pas les moyens de répondre à cette question de l'avant Big Bang ?
Alors c'est une question qui est très difficile, Mathieu, parce qu'en fait, quand on dit « est-ce une question scientifique ?», ça veut déjà définir ce que c'est que la science. Mmh. Et vous savez que tous les philosophes, les épistémologues ne sont pas d'accord sur la définition même de ce que c'est que la science. Alors ce que je vais déjà dire, c'est que pour moi, la science, c'est une méthode, une démarche. C'est le fait déjà de supposer qu'il existe des phénomènes, qu'une certaine réalité, même si on a du mal à définir ce que c'est clarité, qu'elle est indépendante du fait que moi j'existe, que je l'étudie, et que quel que soit le résultat que je vais pouvoir établir, qu'il soit théorique ou expérimental, il pourra être reproduit par n'importe quelle autre personne suivant la même démarche.
On retient ce que vous nous dites parce que c'est une définition parfaite, succincte de la démarche scientifique, en tout cas.
C'en est une. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que je prends des pincettes avec ça. Je ne suis moi-même pas philosophe. Donc voilà, c'est un petit peu la définition opérationnelle que je me suis construite en débattant avec des collègues et surtout en travaillant, parce qu'il y a un moment, quand on est à l'école, on vous dit ceci est de la physique, ceci est de la chimie, ceci est de la science, vous en faites, mais il y a bien un moment où vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je fais, surtout quand vous allez faire de la cosmologie et qu'à côté, vous allez lire des livres de philosophie, des mythes ou des récits qui peuvent être issus des religions sur ce qu'est l'univers, et que quand vous donnez quelques conférences grand public, surtout quand vous êtes jeune et que vous commencez, on vous pose ce genre de questions et vous vous êtes pas préparé à ça. Et en fait, vous dites, mais en fait, quel est ce récit scientifique de l'univers que je suis en train de fournir à mes concitoyens? Quelle est sa valeur comparée à d'autres récits? Sur quoi repose-t-il? Et jusqu'où est-ce que je peux affirmer des choses? Et où s'arrête finalement ce que la science affirme? Et à partir de là, on peut continuer à imaginer dans des cadres théoriques qui sont ancrés dans ce que l'on sait aujourd'hui de la science, mais qui sont des extrapolations qui ne sont pas sous contrôle.
Alors justement, ce qui est intéressant dans le message d'Annie, dans ces extrapolations, justement, c'est que ça ressemble beaucoup à certaines théories proposées par des chercheurs qui travaillent sur cette question. C'est-à-dire des trous noirs, pourquoi pas, et une idée d'un autre univers avant celui que nous connaissons ?
Alors, tout à fait. Et ça, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on est baigné dans cette information scientifique. Ce n'était pas le cas il y a un siècle. Je pense qu'on avait posé la même question il y a un siècle. Les gens auraient beaucoup plus de mal à parler, en fait, des dernières découvertes de la science. Aujourd'hui, avec votre émission, avec d'autres émissions, avec tous les journaux de diffusion des connaissances, les livres, eh bien, on a entendu parler de trous noirs, on a entendu parler d'univers qui se reproduit, d'univers qui collabe, d'univers qui Big Bang. Et en fait, tout ça a diffusé dans la culture commune.
Infuser,
c'est ça, dans nos esprits. Pas pour la marijuana, on peut le faire aussi, mais avec le Big Bang, le faire infuser dans la culture. Et ça, c'est quelque chose d'important, ça montre que, quelque part, il y a eu cet effort collectif des scientifiques pour que leurs idées diffusent. Et je crois que c'est déjà une première étape, ça nous permet à chacun de mener une réflexion sur des objets qui sont, des objets modernes en termes scientifiques.
Alors Patrice, autre message, même si la question avant le Big Bang, écrit-il, apporte une réponse très difficile, elle a en tout cas le mérite de montrer la puissance de la science qui accepte la réfutation, contrairement aux religions qui sont sclérosées par leur certitude.
Bon ben voilà.
Vous êtes d'accord avec ça ?
En partie.
Bon, est-ce qu'il y a eu un temps zéro, demande Paul. Alors ça c'est intéressant parce que ça nous fait justement revenir d'abord sur ce qu'est le Big Bang, c'est peut-être là le point de départ de notre discussion, Jean-Philippe Usan.
Je pense que c'est tout à fait bien de commencer comme ça, parce qu'avant de parler de avant le Big Bang, les gens essayons de nous mettre d'accord sur ce qu'est le Big Bang. Et là, les gens seraient assez étonnés si on demandait même à plusieurs scientifiques ce qu'est le Big Bang. Ils vous donneraient pas tous la même réponse. La raison, c'est que le Big Bang, c'est pas quelque chose que nous avons observé, c'est un fait théorique. Donc, ce que nous faisons en cosmologie, c'est que nous partons des observations de l'univers, donc des observations astrophysiques, et que l'on va essayer de construire ce qu'on appelle un modèle, donc une représentation mathématique et physique de notre univers. Et cette description est basée sur des théories de la physique, en particulier la seule théorie qui nous permet de parler de l'espace et du temps, qui est la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui a été proposée en 1915 par Albert Einstein. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire, eh bien, est-ce que je peux reconstruire la géométrie et l'histoire de notre univers avec ces théories en extrapolant et en basant cette reconstruction sur des observations. Et ce que l'on va faire, c'est un petit peu comme un archéologue. On va essayer de remonter le plus possible dans le passé.
On a été assez loin quand même.
Alors on a été assez loin.
Le plus loin que nous soyons allés, c'est quoi ? C'est l'image de Planck ?
Alors non, l'image de Planck, elle n'est pas si vieille que ça. L'image du satellite Planck, attention, parce qu'il y a plusieurs significations pour Planck. Donc l'image de Planck a été de la lumière qui a été mise 3000... Oula, j'ai un trou.
380 000 ans.
C'est bon, parce que je me tombe dans mes chiffres dans ma tête. Là. 380 000 ans après le Big Bang, d'accord. Alors aujourd'hui, on a des informations sur l'univers une fraction de seconde après le Big Bang. Oui. En particulier, on comprend comment les noyaux atomiques, le deutérium, l'hélium ont été formés. On a des théories qui expliquent ça et on peut mesurer leur abondance et on voit que c'est en accord avec nos théories. Et s'il y avait eu des déviations par rapport au modèle cosmologique standard, on va dire un millième de seconde après le Big Bang, et bien c'est quelque chose que l'on pourrait détecter.
Ouais.
Donc on voit qu'on peut être assez affirmatif, dire qu'on a une bonne reconstruction, un bon modèle, jusqu'à un millième de seconde après le Big Bang.
Ouais. Et alors ce un millième après le Big Bang, c'est un millième après l'instant zéro ou pas ? Alors pour revenir sur la question de Paul, alors.
Et c'est la...
Puisqu'on arrive à dater, on dit l'univers c'est 13,7 8 milliards d'années. 13,8 milliards d'années. On est 380 000 ans après le Big Bang. Donc ça veut dire qu'on a un point zéro quand même dans tout ça, non ?
Exactement. Alors c'est ça qui est intéressant dans cette question. On utilise pour parler des chronologies avec des années, des secondes et ainsi de suite. Ça veut dire, et on dit après le Big Bang. Donc on me dirait qu'on est en 2018 après Jésus-Christ. Donc quelque part, on a l'impression qu'on a un fait qui existe et c'est à partir de là qu'on a lancé un chronomètre. En fait, ce temps, c'est pas un temps mesuré. C'est un temps théorique reconstruit dans le cadre du modèle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se donner un modèle mathématique tiré de la relativité générale qui décrit la façon dont l'univers, l'expansion de l'univers en fonction du temps. Et à partir des observations, on va calibrer ce modèle-là et on va le remonter le plus possible dans le passé jusqu'à un moment où on va arriver sur ce qu'on trouve, on appelle une singularité, un moment où l'espace semble disparaître. Mmh. Et là, on va dire, on peut plus parler de ce qu'il y a avant. C'est comme si l'univers avait un bord, une limite. La relativité générale nous dit qu'après ça, on ne peut plus appliquer la théorie. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a pas d'espace extérieur. Donc en fait, on est dans autre chose. Et donc c'est cet instant, mais qui est un instant théorique, qui sort des calculs, qui demande la compréhension du modèle théorique cosmologique en entier, qui nous permet de faire ces datations. Et donc on voit que ce temps, c'est un temps reconstruit. Ce qui montre une des grandes difficultés de la cosmologie, parce qu'il en est de même des distances. Les distances et les temps ne sont pas mesurés directement. Je ne peux pas prendre une règle entre ici et la galaxie, une galaxie lointaine. Quand je vous dis elle est à tant de milliards d'années-lumière, en fait se cache derrière tout le modèle cosmologique qui me permet de relier certaines observables et les exprimer en termes de temps ou en termes de distance. Et donc quand je vous dis Planck, c'est 380 000 ans, après le Big Bang, c'est qu'il y a certaines observables. Et dans ce modèle-là, j'interprète ces observations pour arriver à la conclusion que le temps dans ce modèle est de 380 000 ans.
Allez, on poursuit notre discussion Big Bang et avant Big Bang dans la tête carrée. On se retrouve juste après l'impératrice. Et vous répondrez bien sûr, Jean-Philippe Uzan, aux messages nombreux qui arrivent sur franceinter.fr.
Ce n'est pas sage, mais j'en ai.
404, c'était l'impératrice.
La tête au carré. Sur France Inter.
Tonnerre d'applaudissements au centre de contrôle. 13h06, les physiciens réunis à Genève viennent de provoquer la plus puissante collision de tous les temps. Le précédent record a été multiplié par 3. Dans un tube circulaire de 27 km de circonférence enfoui à 100 mètres sous terre, ils ont accéléré magnétiquement deux groupes de particules. Proton d'un côté, antiproton de l'autre. Chaque groupe frôle la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Le choc frontal est inouï, si violent, qu'il recrée un mini Big Bang, le phénomène à l'origine de notre univers.
Nous reconstituons l'état de la matière tel qu'il était à peu près un 10 millième de milliardième de seconde après le Big Bang. Disons à 10⁻³ secondes du Big Bang, c'est ça qu'on va essayer de reconstituer. C'est le genre de physique qu'on va étudier.
Dans ce feu d'artifice de particules désintégrées, enregistré par des détecteurs aussi gros que l'Arc de Triomphe, les physiciens espèrent débusquer des éléments inconnus, vérifier des théories et peut-être même trouver le mythique boson de Higgs, cet élément théorique qui conférerait sa masse à la matière. De ce choc est peut-être née la physique de demain.
Oh là là, c'est ancien ça, hein. 2010, vous vous rendez compte, Jean-Philippe Buisson, c'était il y a 8 ans.
Mais le temps passe vite.
Hein. Il s'est passé tellement de choses découvertes depuis du fameux boson de Higgs. Bon là, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est de voir qu'on arrivait justement, avec des accélérateurs de particules comme au CERN à Genève, à recréer finalement un mini Big Bang. On rejoue le Big Bang, c'est exact ça ou pas?
Alors, c'est pas tout à fait exact. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on, donc on nous l'explique bien là dans l'extrait, on fait des collisions de particules et l'énergie de ces collisions est comparable à aux énergies qui sont en jeu quelques fractions de secondes après le Big Bang. Mmh. Cependant, les conditions ne sont pas les mêmes que pendant le Big Bang. Là, on a une collision. Dans le Big Bang, il y a de la matière partout. On est dans un bain thermique. Ouais. Et puis surtout, il y a une grande différence entre des particules qui sont en expansion dans un espace-temps qui lui-même est statique, mmh, et des particules qui se diluent parce que l'espace lui-même est en train de se dilater. Et ça, c'est des choses qui sont complètement différentes. Heureusement qu'ils n'ont pas recréé l'expansion de l'espace à l'intérieur du CERN, parce que dans ce cas-là, vous imaginez, le prix du mètre carré aurait vraiment chuté à Genève.
C'est ça, effectivement. Alors, on parlait tout à l'heure de cet instant zéro. En tout cas, vous nous expliquez que finalement, ben, le Big Bang, c'est la limite de ce qui est observable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après, les lois même ne répondent plus.
Donc, c'est la limite dans le cadre de ce modèle théorique qui est basé sur la théorie de la relativité générale. C'est là où on arrive finalement à ce qu'on appelle une singularité.
Ouais.
Voilà. Donc, avant, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et donc, il n'y a pas besoin de se poser dans ce cadre-là, même la question de l'avant. Dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de se poser la question de l'avant, puisque il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On a une structure comme ça qui existe, qui est un espace-temps, et cet espace-temps a un bord. Mmh.
C'est ce que nous dit Catherine dans un message au cours d'une conférence, rappelle-t-elle. Albert Jacquard disait que se poser la question d'un début n'était pas pertinent. Vous êtes d'accord finalement avec ça ou pas?
Alors, maintenant, tout va dépendre du cadre théorique dans lequel on se pose cette question. Parce que là, je vous ai dit, on est dans le cadre de la relativité générale, mais on a vu que plus on se rapproche de cette singularité, plus les énergies mises en jeu sont importantes, et plus d'autres effets physiques qu'on appelle les effets quantiques vont être importants. Et on se rend compte, et là on peut faire un petit calcul d'ordre de grandeur, ce que font souvent les physiciens avant de faire des grands calculs, se dire, quand est-ce que ça se passe, cette chose-là? À quel moment est-ce que je ne peux plus croire dans ma théorie de la relativité générale pour décrire la gravitation et pour décrire l'espace et le temps. Et on arrive à construire une énergie typique ou un temps typique à partir de 3 constantes fondamentales qui sont la vitesse de la lumière, la constante de Planck et la constante de gravitation. Et c'est le fameux temps de Planck, distance de Planck, énergie de Planck. On peut leur associer une température, la température de Planck. Et au-delà de ces températures-là, eh bien, la description que l'on fait nous-mêmes de l'espace-temps n'est plus valide. La relativité générale va devoir être remplacée par une théorie de la gravitation qui prend en compte les effets quantiques, donc ce qu'on appelle une théorie quantique de la gravitation.
Est-ce que c'est là finalement qu'on peut inscrire notre question qu'on se pose ensemble cet après-midi? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang?
Tout à fait, dans
cette temporalité-là que vous décrivez alors.
Tout à fait, parce que ce que nous dit donc cette singularité, elle nous signale surtout un horizon de la théorie, un horizon de ce qu'on est capable d'expliquer dans ce cadre-là, et donc elle signale le domaine de validité de la théorie. Et dans cette théorie-là, qui est un domaine de validité, on voit apparaître ce Big Bang. Maintenant, on va changer la théorie, on va l'étendre. Question, est-ce que cette singularité persiste, ou est-ce qu'elle va être remplacée par autre chose, peut-être une histoire qui peut continuer? Donc on a parlé de rebond tout à l'heure, il y a un certain nombre de modèles dans lesquels on a finalement un rebond. Et donc si vous avez un rebond, eh bien, il y a une histoire avant le moment où, si vous laissez tomber une balle, vous la voyez, elle a rebondi sur le sol, vous l'avez montée, mais en fait, avant, il y avait une phase de chute et il s'est passé quelque chose. Est-ce que ces théories sont capables de le décrire de façon cohérente dans leur cadre théorique, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que ces descriptions vont être en accord avec ce que l'on sait après, là où on a les observations, c'est-à-dire dans notre univers aujourd'hui?
Ouais. Mais est-ce que ça, c'est finalement une quête absolue d'essayer de tout mettre en accord? Ou est-ce qu'il faut se dire que de toute façon, on va inventer de nouvelles théories qui ne ressemblent en rien à ce qui existe aujourd'hui, parce que les choses ne correspondent pas entre elles?
Alors, on va inventer des nouvelles théories, mais on ne va pas les inventer au hasard. Et il faut que ces théories, quand on va rentrer dans le domaine de validité des théories qu'on applique, la mécanique quantique d'un côté et la relativité générale, que ces théories soient en accord avec ces théories qui sont très bien testées par ailleurs. Et donc, on voit qu'on n'a pas une liberté absolue. On a des éléments, et à partir de ça, il va falloir trouver une théorie plus générale, une théorie à plus haute énergie, une théorie qui va englober la description précédente. Alors, elle va l'englober en termes des explications et des prédictions théoriques dans ces régimes-là, mais peut-être pas dans la façon de concevoir le monde. Par exemple, prenons un exemple simple. Quand Einstein formule la relativité générale, quand je suis à la surface de la Terre et que je regarde des objets tomber, eh bien, les prédictions de la relativité générale sont identiques à celles de Newton. Mais pour autant, il n'utilise pas le même langage. Il n'utilise plus le langage de force. Il n'utilise plus le langage d'accélération. Il va utiliser un langage qui va être de géométrie de l'espace-temps, de géodésie, et ainsi de suite, d'autres objets mathématiques. Et donc, le fait de changer de théorie fait que parfois, on peut avoir une rupture conceptuelle, mais on doit avoir une certaine continuité dans les théories, parce que les expériences doivent aussi être expliquées par la nouvelle théorie.
Brigitte nous dit, je ne suis pas du tout scientifique, mais je me dis qu'il y a forcément eu quelque chose avant le Big Bang. Si à cet instant crucial la matière était hyper concentrée, je suppose que cela est dû à un phénomène de contraction inverse à celui que nous connaissons actuellement de dilatation de l'univers. Pourquoi ne pas envisager que l'histoire de l'univers n'est qu'une succession de contractions et de dilatations, un peu comme le soufflet d'un accordéon? Dieu serait donc un accordéoniste. Oh là, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Dieu? C'est dommage, ça avait bien commencé.
Bon, pour l'instant, on ne va pas l'invoquer, parce que... on ne va pas l'invoquer pour l'instant, mais...
Contraction-dilatation.
Contraction-dilatation.
Voilà. Cette idée-là, elle est intéressante, quand
tout
même.
Tout à fait. Donc, déjà dans les années 30 et dans les années 40, quand les gens ont exploré les solutions de la relativité générale, ils ont trouvé qu'il y avait des solutions qui partaient d'une fameuse singularité, qui rend l'espace rentrer en expansion, arriver à un maximum et rentrer dans une phase qu'on appelle de collapse, donc où l'univers se recontractait sur lui-même pour aller vers un Big Crunch. Et il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit, voilà, on a un cycle, on peut s'amuser à coller ces cycles les uns aux autres. En particulier, Georges Lemaître avait eu ses univers phénix, Georges Gamow aussi avait popularisé ce genre d'idée, et on peut se dire, c'est pas impossible. Et c'est là où la grande difficulté va apparaître, c'est-à-dire qu'à partir des outils que l'on a, on va pouvoir créer des histoires qui sont des histoires probable, plus ou moins probable en fonction du corpus théorique qu'elles vont impliquer. La question est de savoir, est-ce qu'il y en a une qui correspond à notre univers? Et là, sans observation, c'est un peu difficile.
Allez, on se retrouve dans un instant, Jean-Philippe Usan, pour la dernière partie de notre discussion, juste après ce petit souvenir des années 80. Toi, mon toit, Élie Médéros.
Oh. Ça fait longtemps, ça.
Toi, toi, mon tout, mon roi.
et Elie Medeiros à l'instant sur France Inter. Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré sur France Inter.
Mais de toutes ces anomalies, la plus marquante est celle-ci, aux abords de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps.
Est-ce que c'est un trou de ver ?
Apparu il y a 48 ans.
Et où est-ce qu'il mène ?
Dans une autre galaxie.
Un trou de ver, ça n'a rien de spontané.
Quelqu'un l'a placé là. Et quel qu'il soit, on dirait bien qu'il veille sur nous. Ce trou de ver nous permet de voguer vers d'autres étoiles. Il est arrivé pile quand on en avait besoin.
Ils ont placé des mondes potentiellement habitables à notre portée. 12 mondes que nos premières sondes ont repérés.
Vous avez envoyé des sondes là-dedans ?
On y a même envoyé des gens, il y a 10 ans.
Interstellar 2014, Christopher Nolan, Jean-Philippe Uzan, pour parler des trous de ver qui sont des objets purement théoriques, hein, évidemment, mais assez pratiques dans les faits.
Parce que... dans la science-fiction, c'est bien utile. Hein. Imaginez un film de science-fiction sans trous de ver pour voyager.
C'est un grand raccourci, en fait, le trou de ver. Hein,
c'est ça, c'est un tunnel.
Ouais. Alors justement, dans les spéculations, dans les propositions qui existent, en tous les cas, il y a beaucoup de théories hein, qui sont proposées. Est-ce que les multivers, justement, font partie de ces théories ou pas ?
Alors les multivers en font aussi partie. Peut-être on va le garder pour la fin, les multivers, parce que je vais quand même commencer par vous donner quelques idées, en fait, juste pour que vous voyez un petit peu la créativité scientifique.
Ouais.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, toute théorie de la gravitation quantique, quelque part, doit s'exprimer sur cette fameuse singularité, dire elle existe encore ou elle est remplacée par quelque chose d'autre. Et on va voir, en fait, deux grandes classes d'utilisation. Les modèles qui vont être plutôt du type rebond, donc comme il a été évoqué tout à l'heure, ou des modèles dans lesquels, on peut dire, il y a une émergence de notre espace-temps. C'est-à-dire qu'avant, eh bien, l'espace et le temps n'étaient pas tels que nous, on le décrit aujourd'hui. C'était autre chose. Un petit peu, donc c'est ce qu'on appelle en physique une transition de phase. Un petit peu comme si vous vouliez expliquer l'eau, vous n'avez pas d'eau, mais vous dites, avant, il y avait de la vapeur et cette vapeur s'est condensée, elle a donné de l'eau. Donc, avant, il n'y avait pas d'eau en termes d'état, mais quelque part, c'était préexistant sous une autre forme. Donc, on peut avoir ces deux types d'explications. Alors, parmi les théories de la gravitation quantique, la plus célèbre, c'est la théorie des cordes.
Absolument.
Et dès que les gens ont commencé à développer cette théorie, il y a eu de la phénoménologie qui a été faite pour la cosmologie. Alors juste pour citer quelques exemples, Gabriele Veneziano dans les années 90 a développé ce qu'on appelait les modèles de pré-Big Bang, donc là avant le Big Bang, parce que en fait dans ces modèles-là, on avait une phase de contraction qui ne passait pas par une singularité et qui pouvait déboucher sur un univers en expansion qui pouvait, sous certaines conditions, être similaire au nôtre. On a aussi compris que dans ces théories, il y avait plus de dimensions spatiales, 9 dimensions spatiales, et donc il pouvait y avoir ce qu'on appelle des branes, comme dans mon espace, je peux avoir une feuille à 2 dimensions, et donc on pouvait avoir des espaces-temps à 4 dimensions qui se baladaient dans un espace-temps à 10 dimensions, et la matière était localisée sur ces espaces-là. Voilà, donc ça c'est des structures qui existent. Et bien ce que les gens ont proposé, c'est que de temps en temps, il y avait des collisions entre ces branes, et de l'énergie de ces collisions, naissait un Big Bang. Donc, voilà, ça ce sont des idées qui ont été développées à la fin des années 90, en particulier par mes collègues David Langlois, Cédric de Fayet, Pierre Binetruy, par exemple.
Pourquoi est-ce que vous dites, Jean-Philippe Usan, que la théorie des cordes, finalement, est celle qui est la plus populaire aujourd'hui ? Parce qu'elle fait le plus consensus ou...
Je ne sais pas si j'ai dit le plus populaire, celle qui a été le plus étudiée. C'est celle sur laquelle la communauté des gens qui ont travaillé est la plus importante.
Donc c'est un champ intéressant, en tout cas.
Oui, c'est un champ qui est intéressant. Principalement, pour l'instant, au niveau des mathématiques qui sont explorées. Mais le grand problème aujourd'hui, comme toutes ces théories-là, c'est le lien à l'expérience.
Oui.
La deuxième classe de théories, c'est les théories quantiques à boucle. Donc, vous avez déjà invité Carlo Rovelli, Aurélien Barreau. Et dans leur modèle, en fait, l'espace-temps lui-même va être quantifié, discrétisé. Donc, on ne peut pas compacter complètement l'espace-temps. Il y a un moment où ramener tout à une singularité n'est pas possible. C'est comme si l'espace avait acquis une pression. Et donc, il va y avoir un rebond avec ce genre de... à cause des effets de gravité quantique.
D'autres spéculations encore ? Parce qu'il y en a énormément.
Il y en a énormément. Pour alors, pour les gens célèbres qui vraiment... Là, il faut tirer son chapeau parce que c'est un grand monsieur... Roger Penrose, par exemple, qui, depuis les années 70, travaillait sur les représentations des espaces-temps et leur structure conforme. La structure conforme, c'est qu'est-ce qui se passe quand je dilate un espace-temps. Et il est arrivé avec un modèle d'univers cyclique dans lequel il s'est rendu compte qu'une singularité dans le futur pouvait être collée à une du passé et donner de nouveau des univers cycliques. Donc, on a plusieurs façons de faire ces univers cycliques.
Mais alors, dans la communauté des astrophysiciens, c'est discuté de quelle façon, finalement, il est physicien. C'est toutes ces théories-là qui sont proposées. Chacun y va de son imagination, ce qui est formidable, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de validation, il n'y a pas d'observation ni d'expérimentation.
Tout à fait. Donc, on est dans la spéculation, ouais. On est dans l'exploration. L'exploration des théories fait partie du travail des physiciens théoriciens. Parce qu'en fait, quand vous formulez une théorie, eh bien, il y a plusieurs façons de savoir si vous allez l'exclure. Il y a, par exemple, c'est de la mettre à l'épreuve d'une expérience. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on peut pas mettre une épreuve d'une expérience. Mais il faut déjà que dans ce cadre, on arrive à créer un scénario cosmologique qui soit compatible avec tout ce que l'on sait, et en particulier le scénario cosmologique standard. Donc, c'est la première étape. Et ensuite, à partir de là, vous allez avoir des libertés. Et donc, vous allez explorer ces libertés en espérant que dans cet espace-là de possibilités, peut-être il va y avoir un phénomène astrophysique ou cosmologique qui va mener à quelque chose de potentiellement observable.
Donc il faut rester dans le cadre. Il faut quand même rester dans le cadre avant de pouvoir s'en émanciper un petit peu. C'est ce que vous nous dites, Jean-Philippe
Puzon ? Je pense qu'il faut rester dans le cadre parce que le débat se place dans un cadre. C'est un débat de spécialistes, de gens qui sont spécialistes de ces théories quantiques de la gravitation, de cosmologie. Quand vous allez à une conférence, vous allez dire, ah, dans ce cadre-là, j'ai pris tel et... Parce qu'en fait, c'est foisonnant. C'est un peu comme si vous étiez dans la forêt amazonienne. Donc, vous pouvez pas résoudre toutes les équations. Donc, des gens vont dire, ah, mais dans ce secteur-là, j'ai trouvé tel terme qui peut jouer tel rôle, et puis est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est un terme qui va être important, qui va être négligeable, et là va se poser une question de spécialiste autour du fait que ce scénario-là déjà est crédible d'un point de vue théorique, et s'il l'est, ben, il va y avoir plein de gens qui vont se mettre à travailler dessus, et à partir de là de se dire est-ce que il est aussi crédible au niveau des contraintes expérimentales et observationnelles.
Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on aura la réponse au fond à cette question qu'on s'est amusé à se poser là cet après-midi sur l'avant Big Bang, tout ce qui s'est passé avant l'instant initial?
Alors peut-être qu'on arrivera à créer un scénario qui résout cette singularité initiale. Mais pour autant, est-ce que ça sera l'explication de l'origine? Parce que à la fin, cette explication, elle va prendre la forme d'une théorie que l'on va postuler. Cette théorie va avoir des structures, des mathématiques. Elle va faire des hypothèses sur le type de particules, le type de champ, le type de symétrie. Et ces choses-là ne seront pas expliquées par la théorie elle-même. Alors là, on peut avoir différents avis. On peut se dire peut-être qu'il n'existe qu'une seule théorie mathématiquement cohérente. Et que c'est la théorie avec un grand L. Alors ça, on le voit aussi dans la science-fiction, c'est quelque chose qui est un mythe. Ou alors, on va pouvoir créer des théories cohérentes, mais elles n'expliqueront pas leur propre structure. Et comme elles n'expliquent pas leur propre structure, on doit les postuler, vérifier qu'elles sont en accord avec ce qu'on sait, mais on ne pourra pas vous dire pourquoi ces structures-là. Et peut-être que c'est ça aussi la limite de la science. La science, il y a un moment, on doit mettre quelque chose sur la table. Il faut bien résoudre des équations, il faut bien avoir des objets que l'on peut manipuler pour pouvoir faire des prédictions. Et il n'y a rien qui nous dit, a priori, quels sont ces objets. Et d'ailleurs, c'est ça aussi l'art de faire de la science. C'est un moment quand Einstein vous dit, je prends un espace-temps courbe. Il a des raisons pour aller vers cette structure-là, mais il n'y a rien qui dit qu'il a raison. Quand Newton dit l'espace-temps est un espace euclidien et un temps linéaire, il n'y a rien qui lui dit qu'il a raison ou qu'il a tort. Il a construit cette représentation mathématique à partir d'une intuition, à partir de ce qu'il sait de la science, et elle n'est validée qu'a posteriori parce que cette hypothèse est en accord avec les expériences que l'on a pu faire.
Jean-Philippe Puzon, parce qu'il nous reste qu'une minute, hélas, avant de nous quitter, ce qui est intéressant et fascinant, d'ailleurs, et on le voit dans les réactions des auditeurs, c'est à quel point ces questions des origines, alors au sens très large, nous touchent, nous interpellent en tant qu'humains aussi. Hein. C'est des questions auxquelles on réfléchit depuis la nuit des temps.
Oui, parce qu'elles sont juste à la limite entre ce que dit la science et peut-être nos attentes philosophiques et métaphysiques. Et je pense que c'est quelque chose de très important dans une société. La cosmologie d'un côté et l'anthropologie de l'autre. L'homme, l'homme dans l'univers et l'homme par rapport à ce qu'il observe. Et peut-être que ces questions-là, elles permettent de réintroduire la philosophie, la métaphysique, au-delà de simplement la technique.
Eh bien, au moins, c'est l'avantage de s'être posé la question aujourd'hui. C'est
merci
d'avoir
à
pu
vous.
En discuter. Merci surtout à vous, Jean-Philippe Puzon. On peut citer ce livre, L'harmonie secrète de l'univers, qui est votre dernier ouvrage et qui était sorti aux éditions La Ville Brûle. Merci beaucoup à vous et merci aux auditeurs nombreux avec les messages en ce 1er mai. Ça nous touche beaucoup. À très bientôt. Merci à vous.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et ce soir, 20h50, Petra, la cité des sables. David Amiel est en ligne avec nous pour en parler. Bonjour David.
Bonjour Mathieu.
Vous travaillez à l'unité documentaire de France 5. Qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir sur cette mystérieuse cité?
Énormément de choses en fait. Donc l'ancienne cité de Petra, qui est aujourd'hui située en Jordanie, en fait, a été fondée il y a près de 3000 ans. Par un peuple nomade venu d'Arabie qui s'appelle les Nabatéens. Et ils en ont fait une cité majeure du monde antique, car elle était à la croisée des routes commerciales entre la péninsule arabique d'un côté et l'Occident. Donc par elle transitait l'encens, les épices, les étoffes, ce qui lui a procuré une grande richesse. Et c'était une ville qui était principalement troglodyte, c'est-à-dire qu'elle a été taillée dans la roche. Donc on la connaît, nous, en fait, surtout dans la pop culture grâce au film Indiana Jones, c'est la dernière croisade.
Mais oui.
Donc c'était une ville fascinante, hein. Il y avait beaucoup plus de choses que ça. Donc une architecture qui mélange les styles grecs, romains et arabes, énormément de prouesses d'ingénierie. Par exemple, pour faire vivre cette cité aux abords du désert, qui était loin de toute source d'eau conséquente, les Nabatéens ont mis en place un immense réseau de canalisations souterrains, de citernes, pour pouvoir collecter, stocker la maigre eau de pluie. Et donc c'est par exemple ce qui leur a permis d'avoir une agriculture prospère et même une production de vin qui était reconnue dans toute la région.
Et bien justement, extrait de ce documentaire, Petra, la cité des sables.
Les Nabatéens ont conçu un immense réseau de canalisations pour acheminer l'eau partout où elle était nécessaire, à des kilomètres à la ronde. Au centre de Petra, ils ont creusé un tunnel dans la roche et des barrages pour dévier les cours d'eau. Tout au long du cycle, les ingénieurs ont installé des tuyaux en argile, avec des extrémités plus étroites pour générer de la pression et faire couler l'eau plus vite. Mais à travers tout le royaume, ils ont également installé des citernes tapissées de béton spécial, afin de stocker sous terre la précieuse eau de pluie.
Alors, est-ce que ces progrès ont permis à Petra, justement, de s'étendre dans la région, David Amiel ?
Alors, ça leur a donné une vraie prospérité, mais forcément, une telle prospérité finit par attirer l'attention de vos voisins. Et quand vous avez pour voisin l'Empire romain, qui était alors en pleine période d'expansion, de conquête, il est vraiment difficile de conserver son indépendance. Et du coup, au IIe siècle de notre ère, Rome envoie ses grandes légions prendre le contrôle de la ville, ce qu'elles font très facilement en écrasant les maigres défenses locales. Et ben, comme dans toutes ces provinces, l'occupant développe alors la ville à sa façon, avec plein de nouveaux bâtiments de style romain. Mais par ailleurs, l'ouverture de nouvelles voies maritimes et voies de commerce par Rome va en fait porter un coup fatal au commerce de Petra.
Est-ce qu'on sait vraiment à quoi est due la disparition d'ailleurs de la cité ?
Différents facteurs. Donc, en premier lieu, comme on l'a dit, ces nouvelles routes commerciales qui s'ouvrent font que Petra n'est plus au cœur en fait de l'activité du Moyen-Orient. Donc, toute l'économie locale s'en ressent. La ville perd peu à peu son influence, sa richesse et donc ses habitants. Les monuments sont progressivement laissés à l'abandon, les magnifiques jardins sont parfois transformés en champs de céréales par les paysans locaux. Et pour ne rien arranger, au IVe siècle, un gros tremblement de terre frappe Petra et détruit la moitié de la ville. Comme on imagine, c'était le coup de grâce pour cette merveilleuse cité qui ne s'en remettra malheureusement jamais.
Et c'est son histoire qu'on va découvrir donc ce soir dans Petra, la cité des sables, à 20h50 sur France 5, dans le rendez-vous Science Grand Format. David Amiel, merci beaucoup.